Chapitre 9. Ces paroles ont dû être un grand coup pour les disciples, si peu qu'ils en aient saisi la portée. C'est pourquoi le Seigneur, tenant compte de cela dans la tendresse qu'il avait pour eux, se met à leur donner toute assurance nécessaire quant à la réalité de la gloire à venir. Ils avaient espéré que le royaume de Dieu viendrait avec puissance et gloire de leur vivant, et cette illusion étant dissipée, il risquait facilement de tirer hâtivement cette conclusion qu'il ne devait pas venir du tout. Alors les trois disciples, qui semblent être au premier plan parmi eux, sont menés à l'écart sur une haute montagne, afin qu'ils soient témoins de la transfiguration du Seigneur. Là, ils voient le royaume de Dieu venant avec puissance, non pas dans sa plénitude, mais comme un échantillon. Il leur est accordé d'en avoir la vision à l'avance. Dans le premier chapitre de sa seconde épître, Pierre nous montre l'effet que cette scène a eu sur lui. Il avait été témoin oculaire de la majesté de Christ, et par cela, il savait que sa puissance et la promesse de sa venue n'étaient pas une fable ingénieusement imaginée, mais un fait glorieux, et ainsi la parole prophétique était rendue plus ferme ou était confirmée. Il savait, et nous pouvons savoir, que pas un iota ou un seul trait de lettre de ce qui a été annoncé concernant la gloire du royaume à venir de Christ ne manquera. Cette scène de la transfiguration elle-même était une prophétie. Christ doit être le centre resplendissant de la gloire du royaume, comme il l'a été au sommet de la montagne. Les saints seront avec lui dans des conditions célestes, tout comme l'étaient Moïse et Élie. Certains d'entre eux ensevelis puis ressuscités et appelés par Dieu, comme Moïse, d'autres enlevés au ciel sans mourir, comme Élie. Dans le royaume, il y aura également des saints en bas sur la terre, jouissant de bénédictions terrestres dans la lumière de la gloire céleste, comme les trois disciples étaient conscients qu'ils avaient une bénédiction durant cette brève vision. Cela se passa après 6 jours, et 6 personnes seulement étaient présentes. Donc, tout était à échelle réduite et incomplète, cependant, l'essentiel s'y trouvait. Pierre, prêt à parler comme toujours, laisse échapper ce qu'il croit être un compliment, mais qui en réalité est tout autre chose. Cette scène de gloire ne pouvait pas se prolonger sur la terre, et ni Christ, ni même Moïse et Élie, ne pouvaient être mis dans les limites étroites de tentes terrestres. Mais plus grave que cette erreur était la pensée que Jésus n'était que le premier parmi les plus grands des hommes. Il n'est pas le premier parmi les grands, mais le Fils bien-aimé du Père, parfaitement unique, sans aucune commune mesure au-delà de toute comparaison. On ne peut pas, dans la même seconde, parler de quelqu'un d'autre et de lui. Il est à part. C'est ce que déclare la voix du Père, ajoutant que Jésus est celui qu'on doit écouter. La voix du Père a été très rarement entendue par des hommes. Le Père a parlé au baptême de Christ, et à nouveau maintenant il parle, lors de sa transfiguration, ajoutant cette fois-ci « Écoutez-le ». Depuis lors, sa voix n'a jamais été entendue par les hommes de façon intelligible. Le Fils est le porte-parole de la divinité, et c'est lui que nous devons écouter. Dieu a parlé autrefois par les prophètes, Moïse et Élie. Maintenant, il a parlé en son Fils bien-aimé. Cela exclut Pierre ainsi que Moïse et Élie, ce qui est important quand nous nous souvenons de ce que le système catholique romain a fait de Pierre et de sa prétendue autorité. Dans cette circonstance, Pierre a montré de nouveau qu'il était encore exactement comme l'homme dont la vue était brouillée et qui voyait des hommes comme des arbres qui marchent. La voix du Père n'a pas plutôt exalté son Fils bien-aimé que toute la vision disparaît et qu'il ne reste plus que Jésus avec les trois disciples. Les saints disparaissent, mais Jésus reste. Ces mots « ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul » ont beaucoup d'importance. Si nous tendons vers cela dans notre vie spirituelle, nous ne serons plus semblables à un homme qui voit les hommes tels des arbres qui marchent, mais nous saurons comme a été cet homme après avoir été touché une seconde fois, nous verrons toutes choses clairement. Jésus occupera tout notre champ de vision en ce qui nous concerne, et tout ce qui est de l'homme sera éclipsé. Tout cela a été révélé aux disciples, comme nous le montre le verset 9, en vue d'un temps où sa mort et sa résurrection seront accomplies. C'est seulement alors qu'ils comprendront tout cela, illuminés par le Saint-Esprit, et qu'ils pourront efficacement s'en servir pour témoigner. Mais avant, ils ne comprennent même pas ce que ressusciter d'entre les morts signifiait vraiment, comme le montre le verset suivant. La résurrection des morts ne les aura pas intrigués de façon particulière. C'est cette résurrection d'entre les morts, qui a eu lieu pour la première fois avec Christ, qui soulève de telles questions. La première résurrection des saints, la résurrection de vie, est du même ordre. N'y en a-t-il pas beaucoup qui s'appellent chrétiens et qui se posent aujourd'hui bien des questions à ce sujet? La question des disciples, quant à Élie, et l'annonce de sa venue, est naturellement née dans leur esprit à la suite de la scène de la Transfiguration. Le Seigneur s'en sert pour diriger encore une fois leurs pensées vers sa propre mort. En ce qui concerne la première venue du Seigneur, le rôle d'Élie avait été joué par Jean le Baptiseur, et sa mise à mort indiquait bien ce qui devait arriver à celui qui était plus grand que lui et dont il était le précurseur. La scène sur la haute montagne se termine rapidement, mais il n'en est pas ainsi des scènes de péché, de misère et de souffrance de l'humanité qui remplissent les plaines en bas. Il fallait que, des hauteurs, ils descendent aux abîmes pour trouver les autres disciples qui ont perdu la bataille et qui sont très inquiets en l'absence de leur maître. Dès que Jésus apparaît, les foules sont saisies d'étonnement et tous les regards quittent les disciples affolés pour se porter sur le maître serein et qui, à lui seul, peut répondre à tout. L'instant d'avant, les scribes avaient posé des questions embarrassantes aux disciples. Maintenant, c'est Jésus qui interroge les scribes, invite le père troublé à la confiance et montre qu'il suffit à tout. Heureux le saint qui peut apporter quelque chose de la grâce et de la puissance de Christ dans ce monde troublé. Toutefois, il nous faudra attendre sa venue et le royaume pour voir pleinement accompli ce que cette scène annonce. Alors seulement, il transformera le monde entier et fera passer son peuple éprouvé et troublé de la défaite et de l'inquiétude au calme de sa présence, dans une victoire complète et manifestée. Il y avait eu une manifestation particulière de la gloire de Dieu dans la scène paisible au sommet de la montagne, tandis qu'au pied de la montagne, la sombre puissance de Satan s'était déployée avec toute la confusion qu'elle apporte. Un garçon possédé du démon, un père déçu et égaré par la douleur, des disciples abattus après leur échec, des scribes qui ne répugnent pas à exploiter en leur faveur cette circonstance. Le Seigneur arrive au milieu de tout cela et tout est changé. D'abord, il met le doigt là où se trouvait la racine de l'échec. Ils étaient une génération incrédule. La racine était l'incrédulité. Cela était vrai pour ses disciples comme pour les autres. Si leur foi avait pleinement saisi qui il était, ils n'auraient pas été déconcertés par cette épreuve, pas plus que lorsqu'il s'était agi de nourrir les multitudes. Ils étaient encore comme l'homme du chapitre 8, avant de voir toute chose clairement. Mais maintenant, le maître lui-même est au milieu d'eux, et sa parole est « Amenez-le-moi ». Cependant, lorsque le jeune garçon a été amené, le premier résultat est décevant, car le démon le jette à terre dans des convulsions terribles. Mais tout cela arrive pour servir les desseins du Seigneur, car d'un côté, cela ne fait que rendre plus manifeste le terrible état dans lequel se trouvait ce garçon, juste avant qu'il soit délivré, et d'autre part, cela sert à mettre en évidence les sentiments et les pensées de ce père angoissé. Son cri « Si tu peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous » révèle qu'il manque de foi dans la puissance de Jésus, en même temps qu'il n'est pas très sûr de sa bonté. La réponse de Jésus est « Le « si tu peux » c'est « crois », ce qui revient à dire « il n'y a pas de si, de mon côté à moi, le seul si qui intervient ici est de ton côté. Ce n'est pas « si je peux faire quelque chose », mais « si tu peux croire ». Cela met tout dans la vraie lumière et l'homme le voit en un éclair. En voyant, il croit, tout en confessant son incrédulité passée. ayant suscité la foi dans cet homme, le Seigneur agit. Son but n'est pas de faire sensation parmi le peuple. Si cela avait été le cas, il aurait attendu que la foule se rassemble. Son but, évidemment, est d'affermir la foi du Père et de tous ceux qui ont des yeux pour voir. Le démon doit obéir, bien qu'il fasse tout le mal qu'il peut avant de relâcher sa proie. Ce déploiement de puissance démoniaque, après tout, ne fait que donner occasion à un plus grand déploiement de puissance divine. Non seulement le garçon est complètement délivré, mais il est aussi délivré pour toujours, puisque le démon reçoit l'ordre de ne plus entrer en lui. Ayant ainsi manifesté la puissance et la bonté de Dieu, le parfait serviteur ne recherche pas la popularité parmi les foules, mais se retire dans une certaine maison. Là, dans la tranquillité, ses disciples lui demandent la raison de leur échec et reçoivent la réponse du Seigneur. Nous ne devrions pas cesser de poser leurs questions lorsque nous expérimentons notre faiblesse en présence de l'ennemi. En le faisant, nous recevrons sans aucun doute la réponse même qu'ils ont reçue, comme nous la trouvons au verset 29. Le Seigneur avait déjà déclaré qu'à la racine de leur impuissance, il y avait l'incrédulité. Maintenant, il désigne deux autres choses. Non seulement la foi est nécessaire, mais aussi la prière et le jeûne. La foi indique un esprit de confiance en Dieu. La prière, un esprit de dépendance envers Dieu. Le jeûne, un esprit de séparation pour Dieu, sous la forme d'abstinence de choses légitimes. Voilà les choses qui mènent à la puissance dans le service de Dieu. Leur contraire, incrédulité, confiance en soi, complaisance envers soi-même, sont les choses qui amènent à la faiblesse et à l'échec. Ces paroles de notre Seigneur jouent le rôle d'un projecteur sur nos nombreux manquements dans notre service pour lui. Quelle heure lumière nous considérions nos voies ? Au verset 30 et 31, nous voyons à nouveau le Seigneur se retirer loin de la foule et instruire ses disciples de sa mort et de sa résurrection prochaine. C'est ce que nous avons vu, pour la première fois, dans les versets 30 et 31 du chapitre précédent. C'était le prochain grand événement du programme divin, et Jésus commence à le présenter de façon continue à l'esprit de ses disciples, bien qu'à ce moment-là, ils soient incapables de le comprendre. Leur esprit était encore rempli de l'attente de la venue d'un royaume visible. Aussi sont-ils incapables de concevoir toute idée qui viendrait contredire cela. L'idée que le royaume de Christ apparaîtrait immédiatement leur souriait, parce qu'ils s'attendaient à y avoir une place d'honneur. Ils le concevaient de façon charnelle, et cela éveillait dans leur cœur des désirs charnels. C'est pourquoi, pendant le trajet qui les mène à Capernaum, ils se mettent à discuter entre eux pour savoir qui serait le plus grand. La question du Seigneur suffit à les persuader de leur folie, comme le prouve leur silence embarrassé. Cependant, il sait tout, car il se met à leur répondre, bien qu'il ne fasse aucune confession. Sa réponse se trouve avoir une double portée. D'abord, le seul chemin qui mène à la vraie grandeur est celui qui vous fait descendre au plus bas pour être serviteur de tous. Et les choses étant ainsi, nous pouvons voir comment le Seigneur Jésus est prééminent, même si l'on met à part sa déité. Dans son humanité, il a pris la place la plus humble et est devenu serviteur de tous, d'une manière qui va infiniment au-delà de tout ce qu'a pu faire qui que ce soit. Et très vraisemblablement, le premier est celui qui lui ressemble le plus. En deuxième lieu, il montre que la personnalité du serviteur a peu d'importance. Ce qui compte, c'est au nom de qui il vient. Nous avons cette scène belle et touchante où il place d'abord un petit enfant au milieu d'eux et puis le prend dans ses bras pour bien faire comprendre ce qu'il veut dire. Cet enfant n'est qu'un échantillon insignifiant de l'humanité. Cependant, recevoir un de ses petits-enfants, c'était recevoir le Seigneur lui-même et aussi le Père qui l'avait envoyé. Recevoir 1000 enfants semblables au nom d'un autre, quel qu'il soit, ou sur un tout autre terrain, n'aurait que peu de sens. Le fait est que le Maître est si suprêmement grand que la position relative de ses petits serviteurs ne vaut pas la peine qu'on en discute. Cet enseignement semble avoir été comme une illumination pour Jean et avoir aiguillonné sa conscience quant à l'attitude qu'il avait eue envers un homme zélé qui agissait au nom de Jésus, bien qu'il ne suivît pas les douze. Pourquoi ne les suivait-il pas? Cela ne nous est pas dit, mais il faut nous souvenir que chacun n'avait pas la latitude, s'il le voulait, de se joindre aux douze. Le propre choix du Seigneur décidait de cela. De toute façon, la réponse du Seigneur met tout l'accent sur la valeur de son nom. En agissant au nom de Jésus, l'homme était évidemment pour Christ et non contre lui. En fait, cette personne, qui n'avait pas été investie de mission officielle, avait fait la chose même que les disciples n'avaient pas réussi à faire. Il avait chassé un démon. La charge est une chose, la puissance en est une autre, tout à fait différente. Elles devraient aller ensemble dans la mesure où la charge est une institution dans le christianisme. Mais très fréquemment, ce n'a pas été le cas. Et dans les derniers temps, où des charges ont été instituées de façon non scripturaire, nous voyons bien souvent une personne simple, qui n'a pas de charge particulière, faire la chose que la personne investie d'une charge n'a pas la puissance de faire. La puissance est dans le nom, pas dans la charge. Le verset 41 montre que le plus petit don fait au nom de Christ et pour l'amour de Christ a de la valeur aux yeux de Dieu et recevra sa récompense de ses mains. Le verset 42 nous donne la réciproque. Être en piège au plus faible de ceux qui appartiennent à Christ, c'est mériter et recevoir un jugement sévère. Perdre sa vie dans ce monde est une petite chose comparée à la perdre dans le monde à venir. Cela mène à ce passage très solennel qui clôt ce chapitre. Quelques-uns des auditeurs ont peut-être pensé que ce qu'avait dit le Seigneur en parlant de Pierre de Meule était un peu outrancier. Il ajoute des paroles encore plus fortes qui ouvrent la perspective du feu de l'enfer lui-même. Ses pensées, à ce moment-là, évidemment s'élargissaient et vont au-delà de ses disciples pour s'adresser aux hommes en général, et il montre que toute perte, dans ce monde-ci, est très petite, comparé à la perte de tout ce qui est la vie dans le monde à venir et au fait que l'on soit jeté dans le feu de la Géhenne. La main, le pied et l'œil sont des membres de notre corps qui ont beaucoup de prix et dont on ne se sépare pas facilement. Mais la vie dans le siècle à venir n'a pas de prix et les flammes de l'enfer sont une affreuse réalité. La vallée de Hinnon, le champ d'immondices à l'extérieur de Jérusalem, où des feux brûlaient toujours, et où les vers faisaient continuellement leur travail, était connu sous le nom de la Géhenne. Et ce mot, sur les lèvres du Seigneur, devenait une image qui convenait parfaitement au séjour des perdus. En vérité, l'enfer sera le grand dépotoir de l'éternité, et tout ce qui est irrémédiablement mauvais sera séparé de ce qui est bon et restera à jamais sous le jugement de Dieu. Ce fait terrible nous est communiqué par la bouche de celui qui a aimé les pécheurs et a pleuré sur eux. La première déclaration du verset 49 découle de ce que vient de dire le Seigneur. Le feu sonde, consume, purifie. Le sel non seulement assaisonne, mais il conserve. Le feu symbolise le jugement de Dieu que tous doivent rencontrer d'une façon ou d'une autre. Le croyant doit le connaître, comme l'indique 1 Corinthiens 3, verset 13, et par lui il sera salé, puisque cela signifiera que tout ce qui est bon sera conservé. Les impies y seront soumis dans leur personne, et même ce jugement les salera, c'est-à-dire qu'ils seront conservés dans ce jugement, et non pas détruits par ce jugement. La fin du verset est une allusion à Lévitique 2, verset 13. On a décrit le sel comme le symbole de cette puissance de grâce sanctifiante qui lie l'âme à Dieu et intérieurement la garde du mal. Nous ne pouvons pas présenter notre corps comme sacrifice vivant à Dieu si cette grâce sanctifiante est absente. En vérité, le sel est bon et rien ne pourrait compenser son absence. Il nous faut avoir en nous-mêmes cette sainte grâce qui veut nous juger et nous séparer de tout ce qui est mal. Si chacun veille à l'avoir en lui-même, il n'y aura pas de difficulté à être en paix entre nous.